voulez comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la
force de comprendre. Bon, juste avant de parler de science, on va y aller avec les priorités de ce monde. Oui. Martin Carly,
mon téléphone est ouvert devant moi. La France vient d'égaler la marque. C'est 2-2 à la 62e minute. Un but de Pavard. Donc, voilà, c'est 2-2.
Et
donc,
ton cœur est où, toi, entre la France et l'Argentine?
Honnêtement, mon cœur est... Ouais, mon cœur est l'Italie.
Mon cœur
saigne depuis longtemps. Mais comme ma conjointe est portugaise, donc moi, mon club, c'est le Portugal dans ce... Dans ce mondial-là.
Ah ben vous allez regarder le match en après-midi aujourd'hui.
Ça, c'est clair. Oui, absolument un gros match cet après-midi.
Bon, Martin Carly, je suis ravie que tu nous parles de cette importante découverte qu'on qualifie de fantastique qui a été faite au Québec à l'Université de Montréal, dont les médias ont beaucoup parlé cette semaine.
Absolument. Et on a aussi, évidemment, parlé de cette nouvelle-là dans la presse. C'est, en fait, c'est un suivi sur une nouvelle qui date de 2014 environ. À l'époque, on avait déjà présenter cette nouvelle molécule-là, mais cette semaine, on nous présente les résultats de tests cliniques sur des humains pour la molécule dont je vais vous parler. Pour vous mettre en contexte, on parle ici d'un mode de traitement qui est très emballant, mais qui comporte ses défis. On parle ici de cellules souches. Il faut savoir que dans notre organisme, on a plein de cellules qui sont essentiellement toutes spécialisées. Donc, des cellules sont devenues des cellules de rein, des cellules de cerveau, des cellules de cœur, et ainsi de suite. Mm-hmm. Les cellules souches, ça, ce sont des cellules qui ne sont pas encore différenciées, donc qui ont le potentiel de devenir n'importe quelle autre cellule dans le corps.
On peut les transformer.
Voilà, donc elles vont pouvoir devenir une cellule de cœur si on la met dans du tissu cardiaque, une cellule de cerveau si on la met dans du tissu cérébral, et ainsi de suite. Donc, c'est très emballant, ça, comme matériau de base, si on veut, comme vraiment, comme ressource naturelle, et je mets des gros guillemets là-dessus. Donc, il y a des besoins, évidemment, critiques pour certaines de ces cellules-là de temps en temps. Par exemple, des patients qui ont subi des traitements de chimiothérapie contre un cancer, qui ont vu une bonne partie de certaines de leurs cellules être détruites. On peut penser à ceux qui ont des leucémies, par exemple. Donc, leurs cellules sanguines sont lourdement affectées. Eh bien, la solution habituelle, c'est de faire une greffe. On peut faire une greffe de moelle osseuse, donc la moelle qui produit les cellules sanguines. Le problème de ça, c'est que c'est douloureux. Donc, c'est pas une procédure agréable d'aller carrément insérer une aiguille qui est pas petite dans la colonne vertébrale.
Mais pas dans la colonne, non, mais
à base du bassin.
À la base du bassin, j'ai déjà eu une ponction.
Je suis sûr que tu t'en souviens encore.
Ça dure une fraction de seconde, mais c'est une douleur d'une intensité, c'est indescriptible.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le gros problème par rapport à cette procédure-là. Autre problématique, c'est que dans certains cas, les greffons vont carrément s'attaquer au corps, donc il va y avoir un problème qui pourrait mener au décès de l'individu. Donc ça, c'est des problèmes qu'on peut réduire si on utilise des cellules souches provenant du sang de cordon ombilical. Donc ça, c'est très utilisé, ou en fait, on envisage ça comme un traitement fantastique, révolutionnaire, et ainsi de suite. Le problème, il n'y en a pas beaucoup de cellules souches dans le cordon ombilical. Exactement. Alors là, on arrive donc à la découverte de 2014 de cette équipe de l'Université de Montréal, à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal. Ils ont testé un paquet de molécules, ils en ont testé des milliers, pour en identifier une qui pourrait augmenter le nombre de cellules souches dans le sang de cordon. Donc, ils en ont identifié une qu'ils ont nommée UM171, UM pour Université de Montréal.
C'est bien, une signature.
Tant qu'à le créer, pourquoi pas prendre le crédit? Ils ont bien fait de le faire. Et avec cette molécule-là, donc, ils ont non seulement identifié, mais qu'ils ont par la suite modifié chimiquement. Donc, ils ont modifié sa structure chimique pour qu'elle soit plus efficace. Donc, ils ont eu à peu près 400 modifications, 400 variantes de cette molécule-là. Et parmi celles-ci, ils ont pris la meilleure. Et la meilleure permet d'augmenter ou de multiplier par un facteur de 10 à 35 le nombre de cellules souches dans le sang de cordon.
Quand même,
c'est absolument fantastique. Ça avait été d'ailleurs choisi comme une des 10 découvertes de l'année par le magazine Québec Science à l'époque. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ça, c'est 2014, on est en 2018.
Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a fait le test. Parce que rarement, quand on parle d'avancées scientifiques dans le domaine de la santé, on se rend jusqu'à l'humain. Ben, tu sais, quand on parle de la découverte, c'est sur les animaux, c'est en laboratoire.
Puis il y a plein d'étapes avant de se rendre à l'humain. Ouais. Tu sais, premièrement, est-ce que le traitement pose des problèmes de sécurité pour notre corps? Donc, tu sais, la molécule a fait ce qu'on veut, mais qu'à cause des effets secondaires qui peuvent créer des problèmes pires, ben on se rend pas à l'utilisation de la molécule. Donc c'est
mais là
très,
dans ce cas-ci, on s'est rendu jusqu'à l'humain c'est positif. Là.
Voilà, on a utilisé on a fait une greffe de sang de cordon qui avait été amplifié, si on veut, avec la molécule en question, chez 25 patients atteints d'une leucémie avec un mauvais pronostic, qui avaient déjà eu des transplantations de cellules, qui avaient eu des rechutes. Donc, vraiment des patients qui devaient espérer que ce traitement-là fonctionne. Et là, voici, l'étude est finie. Donc, les premiers résultats sont prometteurs. Ils vont au-delà des attentes des chercheurs parce qu'habituellement, on a un taux de mortalité avec une greffe de cellules, une greffe de sang de cordon, pardon, qui est autour de 30 %. Donc, on perd presque une personne sur trois avec cette greffe-là. Eh bien, ici, après 12 mois, eh bien, on n'a que 5 % de taux de mortalité. Donc, c'est énorme, là. C'est quoi? C'est 5-6 fois moins. C'est énorme. Bien entendu, il faut que ces études-là se poursuivent. On veut augmenter le nombre de patients parce qu'ici, on en avait 25. On veut en avoir plus, bien entendu. Ils sont en train aussi de faire des tests avec d'autres types de tumeurs, avec des myélomes, par exemple. Et ils ont déjà, parce que là, c'est très emballant, créé la compagnie qui pourra commercialiser cette molécule-là. Donc, elle est déjà créée. Donc, franchement, c'est une très, très belle découverte qui pourrait carrément changer la vie de bien du monde.
Tout à fait. Là. Et c'est peut-être ce qui va nous mener à une guérison du cancer éventuellement, voilà, de plusieurs formes de cancer.
Voilà. Donc, c'est vraiment fantastique. Ouais. C'est une découverte québécoise. C'est le fun de temps en temps de dire que, ouais, de la belle science, il s'en fait ici aussi. Il s'en fait pas mal plus qu'on pense.
Bon, là, Martin, on sort de la Terre, on s'en va dans l'espace,
oui, oui,
avec un robot intelligent.
Oui, absolument. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, ben, on associe souvent ça à de la science-fiction. Si on parle de robots assistants, on peut penser à 2001, Odyssée de l'espace. Ben, oui. Il semble qu'on soit rendu là parce qu'il y a un robot qui est parti hier grâce à un lancement de fusée Falcon 9 de SpaceX en direction de la Station spatiale internationale. Donc, cette fusée-là transporte une capsule Dragon qui amène à la station spatiale plus de 2700
kilos. Qu'est-ce que tu veux dire par capsule Dragon?
Donc, c'est le nom du type de capsule qui pourra aller carrément s'arrimer à la station spatiale internationale pour livrer du matériel. Essentiellement, on veut être capable de ravitailler la station à certains intervalles réguliers. Et SpaceX a un contrat de service avec la NASA pour envoyer comme ça des capsules pour ravitailler maintenant qu'il n'y a plus de programme de navette, hein, on le sait. Donc, c'est maintenant des transporteurs comme SpaceX qui envoient comme ça ces capsules-là. Et dans cette capsule-là, ben, on a pour 2700 kilos de matériel qui va servir de ravitaillement, mais aussi matériel scientifique et tout. Et là-dedans, il y a un robot qui est gros comme un ballon de basketball qui s'appelle Simon. Mais Simon avec un C, parce que, en fait, c'est le Crew Interactive Mobile Companion. Donc, c'est carrément un compagnon qui a appris au cours des deux dernières années à interagir avec un des 6 astronautes sur la Station spatiale internationale, qui était l'astronaute allemand qui est présentement là-bas, pour être capable de carrément lui prêter main forte dans différentes procédures. Donc, il va être carrément l'assistant d'un des astronautes là-bas.
L'astronaute consulte le robot.
Exactement. Le robot, il peut lui poser des questions. Le robot peut lui montrer des vidéos, des photos, ainsi de suite, pour l'aider dans certaines procédures. Donc, c'est vraiment une interaction comme ça. Le robot, dès qu'on l'appelle, il reconnaît la voix de la personne qui l'a appelé. Il va se diriger vers cette personne-là grâce à des hélices qui lui permettent de voler sans se cogner dans la station spatiale en apesanteur. Et il va aller comme ça interagir avec... Premièrement, il va reconnaître son partenaire avec une caméra. Et par la suite, il va interagir avec lui. Donc, c'est carrément une relation comme ça. À chaque fois que je te parle d'intelligence artificielle,
tout ce qu'on imaginait impossible est en train d'arriver.
Est en train d'arriver, mais certain, ouais. Certain. Puis à chaque fois, moi, ça m'emballe, ça, moi, ces découvertes d'intelligence artificielle-là. Puis, mais je comprends les gens génération qui ont vu tous ces films catastrophes, de dire non, c'est la domination des machines. Ouais, non, on n'est pas.
Non, mais éventuellement, là. est-ce qu'on va avoir besoin d'astronautes dans l'espace, tu sais?
Ben, écoute, probablement. Mais en fait, il faut en revenir à ça sert à quoi un robot dans la vie. Et dans bien des cas, les robots servent à accomplir des tâches qui seraient dangereuses pour des humains, par exemple. Donc, est-ce qu'il va en avoir des robots dans l'espace? Oui. Le bras canadien, c'est évidemment un robot assisté, mais c'est sûrement le meilleur exemple qu'on a de robotique dans l'espace, bien entendu. Donc, la robotique est indispensable dans l'espace parce qu'il y a des moments où ça tente juste peut-être pas de sortir pour manipuler les satellites et les affaires de
même. Quelqu'un d'autre y aille à ta place.
C'était content de contrôler des petits joysticks à l'intérieur.
Et ton dernier sujet, vraiment de circonstances, ce matin, Martin Carly, avec cette chaleur qui s'installe pour plusieurs jours, on va parler de la température des grands centres qui continue à être alarmante.
Oui.
Et d'ailleurs, ce matin, dans la presse plus, il y a un papier très intéressant où on dit c'est la presse qui a réussi à obtenir ce rapport-là. L'Institut national de santé publique veut convaincre le gouvernement du Québec d'investir 1% de son budget afin de construire ou de rénover et de s'assurer qu'il y a des espaces verts dans les grands centres pour combattre les îlots de chaleur.
Ben, c'est clair. Il y en a beaucoup. En fait, il y a trop peu de verdure dans les grands centres. Ça, c'est on part de là, bien entendu. Ces grands centres-là sont zébrés d'une quantité astronomique de rues qui sont toutes recouvertes d'asphalte. L'asphalte, ben c'est noir et
ça
absorbe,
de la chaleur,
ça absorbe beaucoup plus de chaleur que quelque chose qui serait plus pâle, blanc, par exemple. Et les villes, les centres urbains deviennent des îlots de chaleur qui sont de plus en plus dangereux avec les changements climatiques. Hein. Donc, la chaleur va où la température va augmenter graduellement. Donc, des canicules avec tout ce que ça comporte comme problème, ben ça devient de plus en plus dangereux dans les grands centres, dans les grandes villes. Alors là, il y a des grandes villes qui se sont dit, ben là, on est-tu capable de descendre la température moyenne de la ville avec différentes approches? Los Angeles, à l'automne dernier, a eu des records de température. Il y a eu les incendies en Californie qui étaient associés à une sécheresse et une température extrême. Donc, ils se sont dit non. Là, Los Angeles est un des plus gros centres aux États-Unis. On va essayer de baisser la température de 3 degrés Fahrenheit sur 20 ans. Donc, 2-3 degrés Celsius aussi. C'est dur de faire la conversion quand on a juste 3 degrés. Là. Vous ferez le test sur Internet. J'ai eu de la misère ce matin.
Ben, c'est moins d'un degré Celsius.
Ouais, c'est pas beaucoup, mais ça pourrait faire une grosse différence. Premièrement, comment ils vont faire ça? La première chose qu'ils veulent faire, c'est recouvrir les pavages avec une substance qui s'appelle Cool Seal, qui est essentiellement une peinture grise qui a été développée pour les bases militaires pour camoufler leurs avions, pour pas que les avions qui se chaufferait comme ça à la température ambiante serait plus facile à détecter par des drones espions, par exemple, avec des caméras thermiques. Donc, ils ont créé cette technologie-là. Mais là, on se dit, on est-tu capable de repeindre nos rues avec cette technologie-là pour que nos rues aussi soient moins chaudes? Donc, Los Angeles déjà envisage de faire la chose. Ça pourrait être très intéressant parce qu'on pourrait baisser de quoi 1, 2 ou 3 degrés Celsius la température globale de la ville.
Ce qui est très, très bien. Là.
Ce qui est important économiquement parce que les besoins en air climatisé vont être un peu plus faibles. Tu vas économiser, tu vas faire une économie d'échelle intéressante. Les dangers humains, donc les gens qui peuvent perdre la vie, les hospitalisations, le système hospitalier et tout ça. Donc, tout ça va être très, très important. Mais ce n'est pas tout, et t'en as parlé aussi. Ça prendrait plus d'arbres.
Plus
donc,
de verre.
Déjà, plus d'arbres. Peindre les toits en blanc. Donc, Los Angeles fait déjà un beau plan pour ça, mais ce n'est pas la seule ville. New York veut repeindre les toits en blanc et ainsi de suite. Alors, pourquoi pas Montréal? Hein? On pourrait finir là-dessus.
Et d'autres grands centres. Là,
c'est sûr qu'à Montréal, on a peut-être plus de verdure que certaines autres villes ailleurs, mais pourquoi pas en avoir plus?
Mais même à Québec, on pourrait se poser la question.
Voilà. Je pense
merci infiniment.
On ne sera jamais perdant avec plus d'arbres.
Merci beaucoup, Martin.
Très plaisir. Bonne semaine.
Bonne canicule.